and we proudly present Nurse with Wounds, a group who sounds even more remarkable than their unsettling name suggests. Think jazz, think punk attitude, then think anything that comes to mind. Give up, and you've got a track called almost unpronounceably Coolurta.
La Petite Fabrique Sonore sur Canal Sud 92.2. Bien envoyé, qu'on les remballe chez eux, par avion. On écrit l'histoire, mais on l'a toujours écrite du point de vue des sédentaires et au nom d'un appareil unitaire d'État. Gilles Deleuze et Félix Guattari, 1980. Une histoire mondiale de Jean-Charles Macérat. Quand j'ai lu ce texte dans le bus, il a fallu que j'arrête parce que je pensais impensable, impossible de prendre le bus si sereinement pour aller bosser alors que l'histoire mondiale existe, se déroule en même temps. Puis je l'ai lu à haute voix devant un micro et au détour de quelques phrases, un malaise apparaissait. Je venais de lire quelques polars qui se passaient en Afrique. J'ai retrouvé la même décomposition. Là, le texte de Macérat est chirurgical, factuel, seule trace d'une humanité qui va à sa perte. Un refrain. Ce refrain. Ma maman me manque. Ma maman me manque. Comme le dit un enfant lors de sa première journée de maternelle. Sauf que, qu'à lui, à cet enfant, on peut dire sans la moindre hésitation qu'elle va revenir. Au détour de quelques phrases, je me suis dit que non, je ne ferai pas d'émission avec ce texte. Je ne le lirai pas. Et pourtant, j'ai continué, espérant sans doute une fin heureuse, l'ébauche d'un espoir. La seule chose qui reste, c'est d'entendre, encore et encore, « Ma maman me manque ». Une histoire mondiale, texte de Jean Macérat, voire émission précédente, pour savoir, pour avoir une idée du personnage, tiré de la revue Internet AOC, analyse, opinion, critique, excellente revue sur Internet, que je vous conseille de feuilleter. Une histoire mondiale. Lorsque le courant arrive, pendant 2 à 3 heures, vous vous agitez comme un fou. Pour pouvoir recharger tout, pomper de l'eau, vous doucher, dormir, travailler,
mettre en ligne, vous refroidir et respirer. Tout en 2 heures. Nous devons vérifier sans cesse le générateur et le recharger en carburant car il est en marche 14 heures par jour, alors qu'il n'est fait que pour fonctionner que quelques minutes. Ça peut avoir des conséquences sur nos patients. Ça nous arrive souvent d'avoir une coupure de courant. Et ça ne se termine pas toujours aussi bien. On paie les mêmes taxes, on attend des années pour un permis de bâtir, en vain. Pour eux, nous ne sommes que des... S'ils ferment le tunnel, nous sommes prisonniers. Le sous-sol est gorgé d'eau, mais je ne peux pas y toucher. En été, ils viennent se baigner dans notre seul puits. On n'a eu le droit d'accéder à nos oliveraies que 2 jours cette année. Quand on a vu les flammes, nous avons appelé les pompiers. Mais l'armée les a empêchés d'approcher. Ce n'est même pas la peine d'appeler les pompiers s'il y a le feu. On nous traite comme des personnes de seconde zone. Tout dépend du capitaine. Quelquefois, cela se passe bien, d'autres fois... Quand j'allais à l'université, tout le monde arrivait toujours en retard à cause de ce point de contrôle. 3 personnes sont mortes d'infarctus parce qu'elles sont arrivées trop tard à l'hôpital. Une fillette de 5 ans, née avec de sévères pathologies du cerveau, est décédée à la suite de 3 rendez-vous manqués dans un hôpital. On nous traite comme des animaux en cage. On a été arrêté plus longtemps que d'habitude, sans aucune raison. Il faisait très chaud dans le bus fermé. Le bébé n'arrêtait pas de hurler et il est devenu tout rouge. Le père s'est énervé et a demandé au chauffeur d'ouvrir la porte. Le chauffeur a refusé, disant que c'était interdit. On nous traite comme des animaux, du bétail. Je voulais me rendre à l'hôpital, mais c'est interdit. Là-bas, ils ont refusé de me prendre. Ils m'ont renvoyé en me disant d'aller accoucher chez moi. Ça fait plus d'un an qu'on attend ici. Ils n'ouvrent jamais la porte. À chaque fois, ils annoncent l'ouverture sur Facebook ou sur Internet, mais il ne se passe rien. Les antennes de téléphones mobiles sont systématiquement détruites, isolant totalement de nombreuses familles. Ils ont commencé par complètement bloquer l'alimentation en eau de la ville. Ils sont venus avec 10 gros bulldozers avec près de 70 soldats. Je les ai suppliés. L'un de mes frères handicapés se trouvait bloqué dans la maison. Nous avons dû le porter alors que le bulldozer tapait dans le bâtiment. On nous traite comme des sous-hommes. Ils leur ont dit « foutez le camp ». Pour eux, nous sommes tous des terroristes.
Brothers and sisters, the father of Pan-Africanism, Dr. Kwame Nkrumah, says to all black people all over the world, the secret of life is to have no fear. We all have to understand that. Thank you.
faire selon leur bon vouloir. La nuit, des hommes venaient fouiller au jardin. Ils patrouillent parfois dans la petite escalier. Ils foutent des coups de pied dans les portes. Ils crient : vous dormez bien, les minables. Cela dure une demi-heure et ils repartent. Vous commencez à être brûlés. Pour les nobles. Ils ont pris mes 16 vaches. J'ai arrêté leur gestation. Je les ai suppliés. Ils ne m'ont rien laissé. Ils ont brûlé les récoltes avec des munitions incendiaires. Ils ont tué les chèvres, les vaches. On n'arrivait plus à trouver de quoi manger. Nous n'avions même pas d'herbe à manger. Ils ont entièrement brûlé la terre. Ils sont partis avec mon camion, qui est mon seul moyen d'existence. J'ai été arrêté un jour par les forces gouvernementales. On m'a mis dans une cellule avec plusieurs dizaines de personnes. J'y suis resté pendant 2 mois. Quand on m'a sorti de là, on m'a demandé de me ramener de l'information. Mais je ne voyais pas de quoi il s'agissait. Dénoncé, j'ai été arrêté avec mon frère. Quand j'ai compris pourquoi on m'avait arrêté, j'ai vraiment eu peur. J'ai ensuite été transféré dans une cellule sans fenêtre, sans toilette, à dormir par terre. Des armes blanches étaient accrochées au mur. Elles servaient sûrement pour la torture. On s'est retrouvé dans une cellule pendant un certain temps. Puis des gens sont venus chercher mon père. Ils m'ont jeté dans le coffre et m'ont emmené dans un endroit abandonné. C'était leur dernier avertissement. Ma famille était terrifiée. J'avais des traces de lames de couteau sur tout le corps, des cicatrices partout. Je n'ai plus fait de nouvelles rencontres. J'ai tiré une croix sur ça. Je ne sors plus le soir. J'ai eu de gros problèmes de santé, un cas d'infection. Il a fallu en camoufler les causes. Mais l'hôpital n'a pas voulu me soigner. Un jour, il est venu chez nous et nous a demandé de le suivre au commissariat. J'ai été arrêté, interpellé, dans le hall d'un hôtel avec 2 amis par des policiers en civil. Ils nous ont demandé de payer 5 millions de francs CFA pour ne pas envoyer l'affaire devant la justice. Ils nous ont conduits à la police judiciaire. Nous avons été gardés 3 jours sans procès verbal, sans être entendus. Ils gardaient nos téléphones allumés. N'importe quel homme qui appelait ou envoyait un message était une nouvelle cible. Il m'arrachait les cheveux par poignées. Puis il a pris des ciseaux à volaille et me les a enfoncés dans la tête. J'ai repris connaissance à 8h du matin, couvert de sang, le visage bleu et les reins meurtris. Si un de mes proches l'apprend, il n'hésitera pas une seconde à me tuer. Ce n'était pas la première fois que mon frère allait tuer quelqu'un. Mais dans la forêt, il continuait à me dévisager sans se décider à passer à l'acte. Ses parents n'ayant pas eu la force de le faire, c'est finalement son oncle qui l'a poussé dans le vide. Et s'ils ne le font pas, alors ils se feront tuer pour ne pas avoir rétabli l'honneur de la famille. Beaucoup de gens craignent de m'abriter. Je n'avais pas le choix. J'ai déménagé ici. J'étais une cible. Nous ne pouvions plus avoir confiance en personne. Après sa mort, on s'est dit qu'on allait tout arrêter, car on avait trop peur. En tant que défenseurs, nous sommes très exposés. En novembre 2014, on s'est enfuis tous les deux. Mon frère a dit qu'il avait soif. Le chauffeur l'a sorti de la voiture en plein désert. Je n'ai jamais revu mon frère. Il puait l'alcool et me hurlait dessus pour que je finisse par dire que mon mari soutenait le maquisard. Je n'ai même pas crié. Ça lui aurait fait trop plaisir. J'ai juste perdu connaissance. Il est sorti et revenu avec un couteau. Je n'ai pas ressenti la douleur. Mais je regardais ses coupures et j'avais l'impression que ce n'était pas moi. Puis, il m'a tranché la nuque avec le couteau. Il me tapait avec une matraque. Mais elle est épileptique. Sa mémoire est défaillante. Pour la punir, il l'a frappé avec un bâton. et la piquait avec une aiguille à chaque fois qu'elle commettait une erreur. Quand je perdais connaissance, il m'aspergeait d'eau et me recommençait. Avant le marteau, je pensais qu'il n'y avait rien de pire que les matraques. Mais j'ai compris que la matraque n'était rien. Ils ont apporté une plaque en fer avec des clous pointés vers le haut. Ils m'ont fait tenir debout sur les clous. Ils l'ont attaché à mes testicules et m'ont obligé à me lever. Ceux qui refusaient étaient roués de coups et forcés à boire en leur mettant la tête en arrière. On nous faisait ingurgiter de force de l'eau par la bouche et le nez. Ensuite, ils appuyaient sur nos poitrines avec leurs bottes et faisaient sortir l'eau par nos bouches et nos narines. On nous a fait manger du sable. Certains ont fini par craquer et ont avoué, alors que c'était tout faux. Je ne pouvais pas comprendre. J'ai compris après que j'avais signé des aveux. L'avocat n'est pas venu. Ils ont simplement lu ce que j'avais signé après avoir été torturé. Après un mois d'interrogatoire, j'ai dû signer un papier sans même avoir pu le lire. Ils m'ont jugé sans aucune enquête et condamné à 36 ans de réclusion. À 9h du matin, un premier groupe d'assaillants est arrivé, à toute chameau. Puis un deuxième groupe à cheval, et le troisième groupe en voiture. Ils sont venus dans notre village vers 8h du matin, le 25 août. Nous étions tranquillement en train de boire au cabaret. Nous avons entendu des hommes entrer dans notre village, des hommes en civil sont entrés dans les maisons, des hommes en tenue sont arrivés et se sont mis à tout casser dans les maisons. Ils nous encerclaient de tous les côtés possibles. Mais nous ne pouvions nous enfuir ni par l'ouest ni par le nord. Ils ont confisqué tous nos téléphones portables et ont encerclé le village. Ils ont annoncé par haut-parleur que les hommes de 15 à 45 ans devraient sortir de chez eux. Elles ont chanté des chansons pour encourager les hommes durant le pillage. Ils ont même déterré la nourriture que nous avions cachée. À l'école, ils nous ont triés. Ils les mettaient à l'arrière de leur pick-up. Ils nous ont mis dans une camionnette. Ils nous ont forcés à monter dans des camions. Ils ont séparé les hommes des femmes. Ils ont commencé à nous couper les lèvres et les oreilles à l'aide d'un rasoir. Le vieux souffrait tellement qu'il les a suppliés de l'achever, plutôt que de le faire souffrir de cette façon-là. Ils ont d'abord égorgé les hommes et ont poignardé les femmes et les enfants. Ils ont égorgé 3 enfants devant nous. Puis, ils nous ont toutes violées. Nous les avons suppliées à genoux, leur avions donné tout notre or, et ils nous avaient promis de ne pas tuer nos maris en échange. Mais après avoir pris mon or, ils ont quand même égorgé mon mari. Quand il a été mort, ils ont mis le feu à son corps. Je les ai suppliés de m'achever. Il m'a dit que je devais avoir des relations sexuelles avec lui. Ou bien que je devrais avoir des relations sexuelles avec tous les autres soldats. Donc, je n'avais pas le choix. Il y avait une bouteille de bière, ils l'ont cassée, ils l'ont enfoncée dans mon vagin. Ils ont bien vu que j'étais enceinte, mais n'en avaient rien à faire. Elle poussait des cris, elle demandait de l'aide, sans succès. Les autres ne pouvaient rien faire. L'un des assaillants a déchiré son pagne et l'a violé. Je les ai suppliés. Puis il y a tiré dessus et ensuite sur les autres. Vers 18h, ils ont mis le feu au marché et ont commencé à incendier des maisons. Ils jetaient les enfants dans le feu, sous nos yeux. D'autres étaient fracassés contre les murs jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils les ont accrochés aux arbres avec leurs cordons ombilicaux. Moi aussi, j'ai sauté dans la rivière. Ils ont pris ceux qui étaient restés sur les berges. Ils ont séparé les hommes des femmes. Ils nous ont tués comme des animaux, comme des choses sans valeur. Certains décapités. Ils ont pris les têtes et joué au foot avec elles. Certains ont été forcés à se jeter dans le vide depuis les falaises. Ils ont forcé les hommes à creuser un grand trou. Ils ont jeté les cadavres dans le trou et ils ont mis de l'essence et tout brûlé. Cachés dans un arbre, ils assistaient, impuissants, au massacre de son village. Je suis resté là tout seul, attaché à l'arbre, jusqu'au mercredi. Ça a duré 5 jours. Ma maman me manque. Sur 16, on est 2 survivants. Nous les avons perdus, je n'ai aucune nouvelle. Je rêvais de revoir son visage, ne serait-ce que pour quelques minutes avant de mourir. Nous l'avons appelé sur son téléphone portable, mais c'était une autre personne qui nous a répondu et qui nous a dit qu'il était en train d'être tué. Je les ai suppliés. Une des villageoises est sortie de sa maison, elle était rouge. La peau se décollait de son corps. Il est dans la cave de la maison, terré. Les soldats ont jeté des grenades par le soupirail. Il vivait encore quand ils ont mis le feu aux pneus. Les militaires ont commencé à tirer. Tout le monde a couru. Et j'ai perdu de vue mes parents. Certaines personnes s'enfuyaient, d'autres se cachaient au plafond. C'est elle qui m'a dit de fuir alors que les 2 hommes étaient encore dans la maison. Je n'ai pas pu emmener ma tante. Les autres n'ont pas réussi et ont tous été brûlés vifs. Quand je suis sorti dans la rue, il y avait des corps de 2 de mes voisins qui brûlaient, comme des brochettes. Des soldats pillaient ma maison. Mes voisins leur ont donné $200, mais ils les ont quand même tués. Ils ont été emmenés de force, puis exécutés un par un, d'une balle dans la tête. Ils ont tué mon frère, puis ils ont jeté de côté. Un des hommes m'a mis une main sur la bouche et m'a maintenu immobile. Lorsque mon mari a tenté d'intervenir, les combattants l'ont abattu. Il a placé la pointe d'un couteau contre mon flanc et l'a maintenu là, pendant que les autres me violaient. Puis ils l'ont laissé là, attaché sur la toiture plate, se consumer sous le soleil et mourir de soif. Tout s'est passé le même jour, ils ont pris de l'essence, puis ils l'ont versé sur le véhicule, ils brûlaient tout. Quand nous avons vu cela, nous avons décidé de fuir. Avec mon frère, nous avons ramassé quelques affaires et nous avons couru. Le village a complètement brûlé. Après mon départ, mes parents m'ont parlé de crucifixion, de pendaison publique et de gens enterrés vivants. Ceux qu'ils ont découverts sont exécutés publiquement, puis décapités et leurs têtes retirées. 20 corps ont été exposés dans des divers endroits en guise d'avertissement à la population. Ils demandaient souvent aux enfants de tuer les gens dans la brousse. Ils ont d'abord ligoté la personne, puis ils m'ont demandé de le tuer avec un gros bâton. J'ai vu 10 personnes se faire tuer comme ça. Chaque fois, elles étaient tuées par d'autres enfants qui avaient été enlevés. Ils choisissaient les victimes au hasard. Puis ils nous donnaient l'ordre. Prends ton gourdin, tue cet animal. La jeune femme se tient debout dans un trou creusé dans le sol, d'où seule sa tête dépasse. Un homme vêtu de noir ramasse une pierre et la lui lance à bout portant. Puis 3 de ses compagnons l'imitent. Elle a été déterrée. Mais des infirmières ayant constaté qu'elle était encore vivante, elle a été remise en terre pour être achevée. J'ai fui avec d'autres villageois. J'en avais un de plus qui avait 5 ans. Elle courait la dernière, moins vite que nous, essayant de nous rattraper. Un soldat a fait un grand moulinet avec son fusil et lui a fracassé la tête. Elle est tombée. Nous avons continué à courir, nous avons traversé des rivières et des forêts. Nous avons marché pendant 7 jours jusqu'à la frontière. Au bout de la route, j'ai vu des morts. Certains avaient des mains et des jambes coupées. Sur 5 kilomètres, je n'ai pas arrêté de marcher sur des cadavres, avec les intestins hors du corps. C'est affreux. On a cheminé à travers la brousse parce que si on rencontre des soldats, on risque de se faire tuer. À un moment, ils ont bombardé une voiture devant nous. Je n'ai pu ni crier, ni parler, ni pleurer. Je regardais comme un robot. Ils étaient lourdement armés. Ils nous ont obligés à les accompagner. Nous avons marché 15 kilomètres à traverser plusieurs villages. À chaque fois, les habitants devaient se joindre à nous. Nous formions comme un troupeau. On dormait debout. Ils nous emmenaient dans la rue où on devait se soulager, les mains toujours attachées. Ils ont demandé à un homme de nous aider. Quand j'ai demandé à aller aux toilettes, ils m'ont dit de faire dans mon jean. Il y avait 3 toilettes pour 300 personnes. Ils ont été emmenés je ne sais où. Des hommes venaient, les choisissaient, les emmenaient. Pour eux, nous valons moins qu'un animal. Quand elles revenaient, elles saignaient et pleuraient. J'étais donné comme épouse au commandant du groupe. Ils chantent. Et ils disent que nous ne sommes pas que des esclaves, qu'ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Ils nous ont déshabillés et fouettés pendant que nos familles étaient au téléphone. Ils nous servaient une boisson rouge à boire, c'était du sang. Parfois ils tirent près des pieds, mais parfois ils ratent et ils tirent dans le cœur. 3 personnes qui étaient avec nous ont été sorties de la cellule par les militaires et tuées devant nous à coups de machette. Il a sorti les 3 enfants, les jetant au sol comme des pommes. Je les ai suppliés, il a tiré dessus. Ils ont filmé la vidéo et nous l'ont montré. Regardez votre ami, c'est ce qui va bientôt vous arriver. Je pensais, demain ça sera mon tour et après demain ça sera mon tour.
Amen. Yeah.
chacun de nous sait qu'il a été le bourreau de quelqu'un d'autre. Un jour, ils m'ont demandé d'égorger ma sœur. J'ai refusé. Alors ils m'ont brisé les doigts des deux mains. Le secouriste a eu moins de chance. Il a été décapité après 55 jours de détention. On m'a forcé à appeler mon père. J'ai eu à peine le temps de hurler où j'étais. Il s'est évanoui. Alors que j'étais au téléphone avec mes parents, il me frappait. Pour que mes parents entendent mes cris et tentent de négocier. Lorsque mon grand frère a entendu mes pleurs, il a vendu sa moto. Mon père est agriculteur, il n'a pas d'argent, il a vendu notre maison. Je priais Dieu pour qu'il me laisse mourir vite. Que celui qui n'a jamais entendu son enfant, son frère ou sa sœur hurler à mort, se pose la question. Qu'aurais-je fait à sa place? Ma maman me manque. Je cherchais de la farine de sorgho pour ma femme. Les avions sont arrivés subitement et nous ont bombardés. Hier, en milieu d'après-midi, le pilonnage a été intense. Les zones autour de l'hôpital ont été touchées. Nous avons peur d'ouvrir une porte et de tomber sur une bombe. On voyait les avions passer au-dessus de notre jardin. Les bombes explosaient de partout. Le souffle a fait éclater les fenêtres de notre appartement. Les éclats de verre l'ont grièvement blessé. Des dizaines de personnes sont ensevelies sous les décombres. Certaines sont encore en vie. Mais les secours ne peuvent plus leur venir en aide à cause des bombardements. Les médicaments ne peuvent plus être acheminés par avion. On n'a pas de quoi s'endormir. On n'a pas de quoi endormir et opérer. Malheureusement pour beaucoup d'entre eux, il est déjà trop tard. Et ils meurent peu après leur arrivée. Nous ne pouvions plus vivre à la surface à cause des bombardements. J'ai crié pour dire à tout le monde de courir. Mais la bombe a explosé avant que la plupart des gens aient pu sortir. Le ciel est encombré d'avions de combat, d'hélicoptères qui volent à très basse altitude. Impossible de savoir qui nous tire dessus. Des enfants sont restés dans un abri souterrain pendant 4 mois. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Ils ne font aucune distinction entre un adulte et un enfant. Les gens courent sans savoir où aller. C'est la fin, ici. Il y en a qui sont enterrés vivants sous les décombres, d'autres qui sont blessés dans les rues. Personne ne peut les aider. Les bombardements ne s'arrêtent pas. C'est le jour du jugement dernier, une extermination. Croyez-moi. Un baril d'explosifs a été largué sur notre immeuble, qui s'est totalement effondré. Tous les habitants ont péri, dont mes parents. J'ai vu un chien qui tenait quelque chose dans la gueule. J'ai pensé que c'était un rat, puis j'ai regardé un peu mieux. Le chien tenait une tête d'homme décapité. Nous n'avions plus le choix. Lors du premier massacre. Quand j'ai vu un homme à la jambe arrachée, je me suis senti mal et me suis évanoui à la vue du sang, car c'était la première fois. Maintenant, c'est une scène habituelle pour moi. On était affamés depuis 3 jours. J'ai vu des gars qui ont découpé les cuisses de l'un des morts et l'ont mangé devant mes yeux.
Insane!
moment venu, nous sommes partis pendant la nuit, emportant seulement de l'eau et nos papiers d'identité. Nous avons marché 24 heures dans le vent, la neige, le froid. En arrivant, le chauffeur a dit qu'il n'avait pas été payé. Et nous avons été vendus sur un marché aux esclaves. On nous vendait comme des légumes. J'ai été vendu pour 1000 euros. Nous étions entassés dans des entrepôts. Nous avons marché pendant 8 heures. Nous étions 14. Nous avons vu des hommes brandir des armes à feu et des bâtons. Ils nous ont forcés à monter dans des camions. Parmi nous, il y avait une fille. À chaque barrière, on nous déshabillait. Et ils avaient un rapport sexuel avec elle. S'il y en avait 10, tout se passait. Ma maman me manque. Alors j'ai marché pendant 3 jours. Il me dit qu'une voiture allait partir le lendemain. J'ai dit que je n'avais pas d'argent. Il me propose de signer un contrat dans lequel je m'engage à lui rembourser le voyage en travaillant pour lui une fois arrivé. J'accepte. Tout le monde était armé avec des kalachnikovs. Ils ont commencé à gronder tout en nous disant de monter à l'arrière de la voiture. On nous a attachés, le voyage a commencé. Quand on te frappe, on t'oblige à aboyer. Tu dois pleurer comme un chien. Celui qui veut un travailleur dit « Je veux un animal ». C'est là que j'ai compris que j'avais été vendu. J'ai été vendu 4 fois. Le policier m'a ensuite vendu pour 500 dinars à un homme qui m'a fait travailler. Quand on m'a vendu, j'étais avec le petit frère de ma maman. Lorsqu'on nous a vendu à, je crois bien, à 1000 dinars. J'ai été vendu 1000 dinars. On nous a vendu nous deux. On nous a vendu pour gagner de l'argent. Comme si vous vendiez une paire de chaussures ou un téléphone, un smartphone, comme ça, là. Il vient te chercher, te met dans le coffre de sa voiture. La personne venue m'acheter leur a donné l'argent. Et ils m'ont amené à la maison. On te vend, de prison en prison. On était 100. Le mec envoie 170 morceaux de pain. Et là, les gens se battent. Et les gardiens de prison nous filment. Ça les fait rire. Une somme d'argent était négociée entre les hommes et le gardien de prison. C'est le gardien qui recevait de l'argent. Ils nous ont même vendus aux rebelles. On nous faisait passer de ferme en ferme. Certains étaient abattus s'ils travaillaient trop lentement. J'ai été brûlé avec des cigarettes, avec des tasers. On est battu avec des câbles électriques. Parfois, ils introduisent même en nous des objets tranchants. Vous êtes battu pour que vos familles payent de l'argent. Après la première semaine, ils commencent à te frapper pour que l'argent arrive plus vite. Quand il aura été payé, mon mari pourra travailler pour lui et racheter sa liberté. J'ai mis 8 mois avant de pouvoir payer et de pouvoir partir. Dans la cour, il y avait des conteneurs dans lesquels les filles étaient arrivées, serrées, à 5 ou 6 à l'intérieur. Si elles refusaient de se prostituer, les gardiens les enfermaient pendant quelques jours. Dans une pièce sans eau, ni nourriture, et les forçaient ensuite à le faire. Si elles n'étaient pas assez productives, les gardiens leur mettaient un voile et les vendaient. Il m'a emmené dans une sorte de hangar où au moins 200 noirs étaient entassés, cernés par des hommes en armes. On mangeait une seule fois par jour, le soir à 19h, un morceau de pain. Nous avons marché pendant plusieurs jours à travers la forêt. Nous étions affamés. Nous avons pu survivre uniquement en mangeant des feuilles d'arbres. Nous avons marché pendant 6 heures jusqu'à un village. Nous avons marché pendant 3 jours, sans nourriture, ni eau, sans habitation, au village en vue. Il ne pouvait plus marcher. Je l'avais soutenu avec mon épaule pour continuer d'avancer, mais à un certain moment, je me suis arrêté. J'ai pleuré. Et je l'ai laissé là. Nous étions trop faibles pour les aider. Ils sont morts. Pendant environ 25 jours, nous avons marché. Presque tout le temps dans la neige, de nuit uniquement. J'avais très peur de me faire à nouveau kidnapper. Le père tombe à genoux sur le sol boueux et éclate en sanglots. Il vient de repérer sa fille, qu'il n'a pas vue depuis 1 an et demi, en raison de la guerre qui a coupé leur ville en 2. J'avais 17 ans quand nous sommes arrivés dans le camp. C'est ici que j'ai passé toute ma vie d'adulte. Mes sœurs sont ici. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Le pays n'est pas en paix. Il n'est pas possible de rentrer. Je l'ai déjà fait une fois et regardez ce qui s'est passé. J'ai laissé là-bas ma femme enceinte. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon de 4 ans. Je ne l'ai jamais vu. Mais si je retourne au pays, je me ferai tuer. Mes enfants, ils ne sont jamais sortis du camp. Ils ne verront peut-être jamais leur pays. Je suis réfugié ici depuis 24 ans. J'ai passé 20 ans d'un camp de réfugiés à l'autre. Mais il y a un camp où nous sommes restés 9 ans. Nous ne sommes pas autorisés à sortir de cette zone. Nous ne sommes que des réfugiés de l'autre côté du fleuve. Nous n'avons pas le droit de sortir d'ici. On vit comme des volailles, enfermés dans un poulailler. Mon enfant va naître ici comme un animal. Je n'ai déjà plus rien à donner à mon enfant. Nous n'avons même pas d'eau potable. Je n'en peux plus. Si nous restons, nous allons mourir de faim. Je n'ai plus qu'un jour d'insuline devant moi. Et nous n'avons pas d'argent pour payer les passeurs. Après, je ne sais pas ce qu'on fera. Regardez ma tête il y a 5 ans. Et regardez-moi, comme je suis vieux aujourd'hui. C'était très facile de trouver un passeur. Chaque café est plein de passeurs. Ils vous disent où vous voulez aller. J'ai passé 10 jours enfermé dans une maison avec d'autres réfugiés. Après 10 jours, ils nous ont amenés au port. Sur le bateau, les passeurs nous ont confisqué nos téléphones. Ils nous ont enfermés pendant la plus grande partie du voyage. Ils ne nous ont pas donné à manger ni à boire pendant 36 heures. Il n'y avait pas de toilette dans notre pont. Nous avons dû donner 4000 euros à un chauffeur de camion. Le passeur m'a demandé 1 200 $. Ceux qui avaient payé le moins étaient enfermés dans la cale. D'autres ont payé 2 500 euros parce qu'on leur avait fait croire qu'ils allaient monter dans un vrai bateau. Là, on a pris un petit bateau en plastique avec 50 personnes. Notre bateau a chaviré après 200 km et seulement la moitié des personnes a survécu. Nous étions 33 sur un petit bateau de pêche. Le voyage a duré 8 jours. J'ai cru que j'allais mourir. Plusieurs personnes sont mortes, dont un enfant. On a jeté leur corps par-dessus bord. De nombreux passagers sont morts avant que l'on vienne à notre secours. J'ai réessayé une semaine après. Cette fois, mon nom est à nouveau sur la liste pour lundi. Je ne peux pas dormir. Ils vont me scotcher la bouche, les mains. Ils vont m'emmener à l'aéroport. J'ai eu ma mère hier au téléphone. Elle m'a demandé de ne pas rentrer. Elle m'a supplié, m'a dit que ma vie était en danger. Je me rappellerai toujours qu'en descendant du car, en Bretagne, le maire était là. Il a commencé son discours en parlant arabe. J'étais très ému. Ma maman me manque. Avril 2018.
Ma maman me manque. À l'Aquarius, ce bateau, sa port, me rapproche. Ma maman me manque. We'll be right back.
Ah.